16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec aujourd'hui trois personnages sacrément secrets. Alors des secrets, bon, on en a tous. Qui sait par exemple que Stéphane Bern chante du Claude François sous sa douche tous les matins ?
Alexandrie, Alexandra.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, j'ai mes secrets, j'ai mes secrets d'histoire.
On vous visualise surtout. Maintenant.
Oui. Non, voyez-vous, c'était dans cette émission où vous m'avez obligé. Faut savoir.
À prendre une douche ?
Non,
ben oui, je pensais que ça s'imposait.
Voilà, à pousser des cris ridicules. Mais nos personnages du jour en ont encore plus de secrets. Ils sont sacrément secrets, malgré leur immense notoriété. C'est le point commun de nos trois stars du jour qui n'auraient jamais pu se croiser et qui surtout ne se seraient pas raconté grand-chose. À commencer par le peintre Édouard Manet. On connaît ses toiles célèbres comme Le déjeuner sur l'herbe, mais beaucoup moins sa vie qu'il a tenté et réussi d'ailleurs à préserver. Une épouse célèbre, peut-être même un fils caché, je vais tout vous raconter. Puis, lui non plus n'a rien dit de sa vie. L'américain G.D. Salinger et son célèbre roman La Trappe-cœur qui a fait son succès. Un écrivain insaisissable et secret qui a vécu reclus pendant une grande partie de sa vie, refusant les interviews et surtout de se montrer. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une de nos stars les plus secrètes.
Oui Stéphane, c'est une artiste que vous adorez, dont vous connaissez tous les tubes, que vous chantez à tue-tête dans votre Bentley Continental GT cabriolet sur le chemin d'Europe 1.
Je ne veux me dévêtir, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon.
C'est bien évidemment Mylène Farmer, l'une des plus grandes stars. Non, mais vous aimez bien Mylène.
Oui, j'aime bien Mylène.
Ah mais sans plus. Ah, je vous aurais cru un peu plus,
non,
peu
mais
plus fan.
Oui, non.
Ah non. Ah moi, c'est vraiment, moi Mylène, c'est quand même c'est ma jeunesse, ouais. Les clips là, c'est la folie. Quand j'entends ça, j'y vais.
Disons, j'aime bien ces chansons, mais au bout d'un moment, on a envie de se jeter dans la Seine.
Ben non, pas celle-ci justement.
Ah oui.
Ah, Désenchantée, oui. Mais celle-ci, sans contrefaçon, on a envie de danser. Ouais. Donc c'est une des stars les plus discrètes, mais vers 17h20, elle n'aura plus aucun secret pour vous, j'ai enquêté. Et avec nous, comme chaque après-midi, Stéphane, des chroniqueurs sacrément secrets aussi.
Disons qu'ils ne disent pas la vérité sur leur véritable penchant.
Entre autres.
Et à commencer par Clémentine Portier-Kaldenbach, qui nous entraîne dans l'intimité des grandes de ce monde. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui, je vous entraîne en Grèce, ça ne devrait pas vous dépayser, Stéphane, pour vous parler des femmes grecques de l'Antiquité. Oui, parce que selon que vous habitiez autrefois à Athènes ou à Sparte, vous avez vraiment une éducation, une vie totalement, totalement différente. Il n'y a pas deux cités à la fois plus proches et plus différentes sur le plan des mœurs. Et finalement, nous, les femmes du 21e siècle, sommes un peu les héritières des deux. Vous verrez il y a le côté, vous voyez, c'est comme on dirait dans la Bible aussi, Marthe et Marie, c'est-à-dire l'intellectuel, la femme de l'intérieur, et puis la guerrière, l'amazone. Ça, c'est plutôt la spartiate.
On verra ça.
Oui, elle n'aurait fait qu'une bouchée de vous tous, les spartiates ici.
Avec nous, David Castello-Lopez, qui remonte aux origines d'une invention.
Oui, exactement, ça c'est une invention, c'est un jouet des années 80 encore. Alors, on a discuté un peu avec Mathieu, j'étais le seul à jouer avec
les Transformers. Non, pas du tout, je pense que tout le monde jouait, moi j'étais pas représentatif. J'ai dû passer à côté des Transformers. J'en avais quelques-uns, mais c'était pas la folie.
Exactement, qui sont à la fois des vous voyez, c'est une petite voiture comme ça,
mais
ça peut se transformer en robot.
Vous
voyez, regardez. Et ça devient une sorte de robot, vous voyez.
Incroyable.
C'est du leader.
C'est votre meilleur incroyable, Stéphane.
Je n'avais jamais vu cette chose-là.
Vous l'avez jamais vu ?
Mais c'est une énorme licence de films, Stéphane. Il y a plein de films.
Il y a des films de Michael Bay depuis, il y a des centaines de millions.
Je ne vais pas voir les films américains.
Mais je connais leur existence.
Donc, vous nous expliquez
les origines d'où ça vient. Exactement.
Les Transformers.
Mais écoutez, j'ai bien fait de venir. Et puis avec nous, Olivier Pouls.
Alors ça ne devrait pas vous dépayser trop non plus, parce que j'imagine que la Mogette, ça vous dit quand même quelque chose.
Ah oui,
la fameuse Mogette de Vendée.
Vendée, bien sûr.
D'où vient-elle avant d'être en Vendée? Ah ben non, avant, elle vient
pas d'Irlandais, non? Pour faire de l'Irish stew?
Non.
La Mogette.
Vous pouvez nous dire, pour ceux qui connaissent peu les Mogettes,
c'est un petit haricot blanc qu'on peut trouver frais, demi-sec ou sec toute l'année. C'est une des grandes spécialités de la cuisine vendéenne.
Et vous nous donnez une recette.
Mais bien sûr. Même peut-être plusieurs.
Les mogettes au beurre.
Bah, oui, tout simplement.
Mais moi, c'est ce que je ferais personnellement si j'avais des mojettes en ma possession.
Ouais, il faut les cuire d'abord. Hein.
Ah, ça vous nous expliquerez comment. Enfin, aux alentours de 5h10, nous testerons les véritables connaissances historiques des membres de cette émission dans notre célébrissime quiz Born to be Alive. Mais tout de suite, découvrons le destin de notre premier petit cachotier de l'histoire. Il est un personnage devenu extrêmement célèbre tout en restant secret.
C'est moi ?
Non, ce n'est pas vous, Stéphane. Encore plus secret, encore plus célèbre, je me permets de le dire. Ouf. Pour ne pas s'en mêler les pinceaux sur sa vie, il a préféré ne rien en dévoiler, même si ses toiles ont peut-être parlé pour lui. Stéphane Bern nous raconte Édouard Manet, le peintre sacrément secret.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes en mai 1863 à Paris, sur l'avenue des Champs-Élysées. Dans quelques heures, une exposition un peu spéciale s'ouvrira dans une annexe du Palais de l'Industrie et des Beaux-Arts, le Salon des Refusés. C'est l'empereur Napoléon III lui-même qui a décidé de l'organiser pour que le public puisse juger les centaines d'œuvres refusées par le salon officiel. Dans les galeries du palais, le peintre Édouard Manet promène anxieusement sa silhouette de dandy. À 31 ans, cet éternel incompris a malheureusement toute sa place ici. Depuis ses premières toiles, les membres du jury n'ont cessé de rejeter son art, jugé bien trop éloigné des critères académiques. Alors pour lui, qui rêve de reconnaissance, le salon des refusés, c'est l'occasion d'exposer enfin trois de ses œuvres. À l'ouverture des portes, une masse dense s'engouffre dans le palais. La presse a attiré de nombreux curieux et très vite on n'entend plus que les éclats de rire et les commentaires féroces de ses visiteurs, trop heureux de moquer les artistes ratés. Mais lorsqu'on découvre une toile signée Manet, les railleries laissent place aux protestations outrées. Face au déjeuner sur l'herbe, les yeux s'écarquillent, les mains se plaquent sur les lèvres. C'est un scandale! Sur une toile de plus de 2 mètres sur 2, Édouard Manet a peint 4 personnages en train de pique-niquer dans une clairière. Oui, mais parmi eux, il y a une femme totalement nue qui regarde le spectateur droit dans les yeux. Loin d'être la représentation d'une nymphe issue de la mythologie, elle défie la bienséance. C'est une prostituée. Le public s'émeut. Mais où est donc passée la bonne morale ? Manet déchante. On ne le comprendra donc jamais. Fort heureusement, dans les sphères artistiques et intellectuelles, des voix s'élèvent pour défendre le travail d'Édouard Manet, à commencer par celle de l'écrivain Émile Zola. Avec le peintre réaliste Henri Fantin-Latour, les critiques Zachary Astruc et Louis-Edmond Duranty, ou encore le photographe Félix Nadar, ils forment le groupe des Batignolles. Chaque semaine, ils se réunissent au café Gerbois, un boc à la main et une pipe fumante dans l'autre, les tenants de la modernité refont le monde. Mais ce soir-là, alors que les esprits s'enivrent, Édouard Manet revêt son haut de forme et quitte discrètement la tablée. Nous ne sommes qu'à quelques rues de son appartement. Ses amis connaissent-ils les secrets que ses murs renferment ? Car si le nom du peintre est sur toutes les lèvres, sa vie privée, elle, est auréolée de mystère. En 1850, alors que Manet a tout juste 18 ans, il entame une liaison avec sa professeure de piano. C'est une rousse plantureuse, tout droit venue de Hollande. Édouard et Suzanne, oui c'est son nom, se fréquentent en secret. Est-ce à cause de son statut d'étrangère et du fait qu'elle soit issue d'une famille d'artistes sans fortune ? Toujours est-il que ni la famille ni les amis de Manet ne la fréquentent vraiment pendant 13 longues années. Pourtant, Suzanne s'installe dans l'appartement bourgeois du peintre, au cœur du quartier des Batignolles. Mais les amants n'y sont pas seuls. Derrière la porte de M. Manet, on entend souvent les rires joyeux d'un enfant et ses pas saccadés qui résonnent sur le parquet. Ce petit garçon, c'est Léon. Suzanne le présente comme son jeune frère. Il l'appelle marraine, quant à Manet, il est son parrain. Mais tout cela est bien étrange. Léon est né en 1852, soit 2 ans après la rencontre d'Édouard et Suzanne. Se pourrait-il en fait qu'il ait été leur fils caché ? Après tout, un enfant né hors mariage dans une bonne famille comme celle de Manet, c'eût été un déshonneur. Quoi qu'il en soit, Léon apparaît sur plusieurs toiles du peintre. On le voit grandir sous son pinceau. Il est l'enfant à l'épée, celui qui s'amuse dans les bulles de savon ou encore le jeune homme au canotier du déjeuner dans l'atelier. Mais le garçonnet n'est pas le seul modèle récurrent d'Édouard Manet. Une artiste peintre prometteuse, dont les œuvres ont déjà été exposées au salon, suscite bientôt sa fascination. Un matin de 1868, Berthe Morisot, 27 ans, se présente rue Guyot au cœur des Batignolles. Édouard Manet lui ouvre les portes de son univers, un grand atelier rempli de bouquets de fleurs, des pivoines et des hortensias dont l'odeur délicate imprègne les murs. Aux quatre coins de la pièce, des jupons abandonnés gisent sur les sofas. Preuve, s'il en faut, du passage fréquent de quelques dames dans cette garçonnière. Un jour amante, l'autre modèle. Berthe Morisot intrigue Manet. Il veut immortaliser sa silhouette avec son pinceau. Sur une première toile, Berthe apparaît vêtue d'une robe de mousseline blanche. Elle est accoudée à la rambarde verte d'un balcon. Autour d'elle, d'autres jeunes gens semblent perdus dans leurs songes et une petite silhouette fait penser au jeune Léon. Ce tableau, c'est le balcon. Une œuvre inspirée du travail de Goya et que l'on peut aujourd'hui admirer au musée d'Orsay. Le balcon est la toute première collaboration de Manet et Morisot et la première d'une longue série puisqu'il la peindra sur une quinzaine d'autres toiles. Ces longues heures de travail permettent aux artistes de tisser un lien particulier. Un lien d'amour ou d'amitié? En fait, on ne connaît que trop peu la nature de la relation d'Édouard et Berthe. Ont-ils entretenu une liaison dans l'ombre de l'atelier du peintre? Rien ne l'atteste, mais des indices semés ici ou là le laissent penser. Après le balcon qui lui attire à nouveau les foudres des critiques conservatrices, Édouard Manet fait de Berthe Morisot sa muse. Et à chaque nouveau tableau, c'est une plus grande complicité qui transparaît entre eux. Berthe espiègle qui se cache derrière un éventail, Berthe qui laisse entrevoir sa cheville nue. Et c'est bien sûr à Manet que l'on doit le portrait le plus célèbre de Berthe Morisot. Sur cette toile, elle est vêtue de noir et porte un chapeau de la même couleur dont quelques mèches rebelles s'échappent. Sur sa poitrine, c'est pas un bijou qui accroche le regard, non. C'est un petit bouquet de violettes, des fleurs encore. Elles abondent sur les toiles de Manet, mais ici, le choix de la violette n'est certainement pas un hasard. Dans le langage des fleurs, elle signifie l'amour secret. D'ailleurs, juste après cette toile, Manet peint une petite nature morte. C'est un bouquet de violettes déposé sur une feuille de papier où sont griffonnés ces mots « À Berthe », signé Manet. En 1872, Manet peint pour la dernière fois les traits de Berthe Morisot. Sur cet ultime portrait, elle apparaît toujours en noir, un éventail à la main. Mais c'est un autre détail qui saute aux yeux. À l'annulaire gauche, Berthe porte une bague de fiançailles. À 33 ans, elle sera bientôt mariée. Mademoiselle Morisot deviendra officiellement Madame Manet. Pourtant, ce n'est pas Édouard qui lui fera face devant l'autel. Non, lui est déjà marié. Il a fini par épouser Suzanne, que Berthe surnomme d'ailleurs la grosse Suzanne. En fait, Berthe Morisot s'unira à Eugène, le plus jeune frère d'Édouard Manet. Et à partir de ce jour, plus jamais, elle n'apparaîtra sur ses toiles. Mais alors que Berthe Morisot devient officiellement la belle-sœur d'Édouard Manet et laisse planer pour toujours le mystère entourant la nature de leur liaison, un autre secret éclate. Cette même année, Léon, qui a désormais 20 ans, découvre la vérité que Suzanne s'est tant évertuée à cacher. Suzanne n'est pas sa sœur aînée, non, elle est sa mère. Mais pourquoi a-t-elle tu leur véritable filiation? Léon n'aura jamais le fin mot de ce secret de famille. Jamais Manet n'avouera être son père. Il restera ce parrain qui lui voue une affection toute sincère. En 1883, Édouard Manet abandonne Suzanne, Léon et Berthe à leur chagrin. À 51 ans, le peintre est emporté par la gangrène et avec lui disparaissent les secrets jamais révélés de sa vie.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour essayer justement de percer tous ces secrets d'Édouard Manet, nous sommes avec l'historien et critique d'art Stéphane Guégan. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bonjour Stéphane Guégan, vous connaissez particulièrement bien les œuvres d'Édouard Manet puisque vous êtes aussi conservateur au musée d'Orsay qui détient la plus grande collection de Manet au monde. Le mystérieux Manet a-t-il encore des secrets pour vous?
Heureusement oui. D'abord parce que toutes les grandes œuvres sont mystérieuses. Et puis parce que, comme Baudelaire l'a dit, Baudelaire qui a été l'ami de Manet, le mystère est l'un des caractères du beau moderne. Il y a le mystère des œuvres. La radiographie nous révèle comment il a fabriqué ces tableaux que nous admirons. Et puis il y a le mystère de la peinture. Comment Manet charme en troublant.
Édouard Manet a emporté avec lui plusieurs secrets, Stéphane l'a raconté. Finalement, ce qu'il n'a pas dit, ce sont ses toiles qui le disent pour lui.
Sans doute. Vous l'avez évoqué à propos de Léon. Léon est très présent dans la peinture de Manet. Il y a là un roman de Léon. Qui reste d'ailleurs en partie mystérieux, mais l'affection que Manet porte à Léon est certaine et la peinture le dit. Et puis il y a les tableaux dont il faut se méfier, la surinterprétation, vous savez, c'est un des, hélas, une des spécialités de l'histoire de l'art. Par exemple, il y a un tableau au Met où l'on voit Léon pêcher. Je ne suis pas sûr que cela signifie que Léon soit l'enfant du péché.
Certains ont dit ça.
Oui.
Il y a eu des là, c'est des rébus. Alors.
Oui, absolument.
Je le disais au début de mon récit, Manet a longtemps été un peintre incompris. Je parlais du Salon des Refusés. Est-ce que vous comprenez pourquoi?
En partie, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est une peinture trop libre par ses sujets, par son écriture, par son mystère même. Elle ne livre pas au spectateur son mode d'emploi, alors que la peinture devrait le faire. Cela dit, il n'a pas été qu'incompris. D'abord parce que l'empereur, par exemple, donne en 63 la possibilité aux rejetés de se montrer. Et puis, autour de lui, il y a des critiques pour le soutenir très tôt. Donc il faut aussi ne pas oublier qu'il a su, parce qu'il est très malin, s'entourer, vous avez parlé de Zola, de Duranty, d'Astruc, il a su s'entourer d'écrivains, de journalistes qui l'ont soutenu. Cela dit, même ceux qui l'ont aimé ne l'ont pas toujours compris.
Est-ce que la défiance, si on peut dire, vis-à-vis de son travail, c'est ça qui l'a poussé à en dire le moins possible, à être si secret, ou c'était tout simplement dans sa nature, d'être secret comme ça?
Je dirais c'est dans la nature, sa peinture, oui. Sans doute dans sa nature, c'est un grand bourgeois, un peu dandy, donc il y a une sorte de retenue chez lui, mais c'est aussi la nature de sa peinture. Il ne faut pas tout dire en peinture, il faut laisser au spectateur le soin de construire une partie de la toile.
Et ça, c'est nouveau à l'époque de Manet, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il fallait que le mode d'emploi ça donnait à l'époque.
Vous avez raison, c'est nouveau. C'est nouveau et c'est précisément ce qu'on lui reproche. On ne comprend rien à ta peinture, même ses amis le disent. Et puis, à la fin de son existence, dans les années 80, quand sa peinture va devenir plus naturaliste, finalement plus compréhensible, certains vont s'en féliciter.
Alors, Stéphane, la question que tout le monde se pose, et surtout Stéphane, c'est évidemment celle de la nature exacte de la relation d'Édouard Manet et Berthe Morisot. Alors, d'après vous, histoire d'amour ou d'amitié?
Ont-ils, comme on dit au... Non. Vous rappelez, c'est le théâtre de boulevard de notre enfance. Non, à vrai dire, je crois que vous avez réussi à en parler avec la prudence nécessaire. Il y a une histoire d'amour à travers la peinture. Elle est là, elle est très présente, elle le regarde. On n'a pas ça dans les tableaux de Manet quand il s'agit d'un autre modèle. Il y a un échange, c'est sûr. La correspondance de Berthe et de sa sœur Edma est assez significative aussi. Elles disent toutes deux qu'elles sont toquées de Manet. À la fin des années 1960. Berthe parle aussi de la nature charmante de Manet. Donc, des deux côtés, il y a attraction, il y a magnétisme, et la peinture, je crois, l'a bien exprimé.
Il y a Bach de fiançailles aussi.
Et il y a Bach de fiançailles. Oui, là, c'est Eugène. C'est l'autre frère.
C'est drôle comme la peinture raconte vraiment leur histoire.
Parce que la peinture de Manet est particulièrement autobiographique.
Et est-ce qu'on sait si à l'époque d'Édouard Manet, certains membres de son entourage ont soupçonné justement une liaison amoureuse avec Berthe Morisot? Et à quand datent les premiers indices, les premiers doutes?
On a peu d'éléments là-dessus. Je pense que la mère de Berthe, qui était très protectrice, devait se méfier de Manet et des peintres en général. C'est une famille beaucoup plus conservatrice que celle de Manet, à tout point de vue. Mais ce qui est sûr, c'est que Manet n'a pas caché à ses frères la liaison qu'il a entretenue avec Suzanne. On sait que Gustave, celui qui se rapproche de Gambetta, c'est le troisième frère, celui dont on parle moins hélas, Gustave est invité, c'est l'invité du couple. Il connaît l'existence de Léon, il a compris lui.
Et justement, l'autre secret, c'est évidemment le lien d'Édouard Manet avec le jeune Léon, dont il dit jamais qu'il est le père. Quelle est l'hypothèse la plus sûre? C'est vraiment son père? Et Léon est vraiment son fils.
Alors, ma camarade américaine Nancy Locke a échafaudé un roman, d'ailleurs très amusant, sur l'idée que c'était le demi-frère du peintre et donc le fils du père de Manet. À dire vrai, quand on regarde bien les choses, et notamment le testament d'Édouard, le testament du peintre, il y a de fortes chances pour que Léon soit son fils. C'est celui qui hérite le plus. Au moment de la succession.
Mais pourquoi il ne l'a pas reconnu?
C'est bizarre.
Ça, vous l'avez dit, c'est le monde bourgeois. Oui. Et c'est peut-être d'ailleurs à la demande de Suzanne elle-même, qui n'a pas voulu laisser entendre qu'elle avait été fille-mère, donc avant le mariage. C'est peut-être pas l'intention de Manet lui-même.
De la même façon, pourquoi Manet a-t-il vécu dans une forme, on peut le dire, de semi-clandestinité avec Suzanne? Il a tout de même attendu 13 ans pour l'épouser.
Alors d'abord, parce qu'on n'épouse peut-être pas son professeur de piano, il y a une différence de standing, vous l'avez dit.
On peut épouser son professeur de théâtre.
D'abord parce qu'ils ont fauté avant le mariage.
Ah oui.
Et puis parce que le père attendait peut-être de son fils aîné un mariage un tout petit peu plus valorisant. Cela dit, Suzanne Baudelaire le dit, est un personnage qu'il faudrait aujourd'hui reconsidérer. Très bonne pianiste, un peu dans l'héritage de Liszt. Et puis tous les témoignages disent que c'est une femme formidable et qu'elle a apporté à Manet une tranquillité, une assurance, une confiance dont il avait besoin. C'est un neurasthénique, c'est un grand neurasthénique, Manet.
Voilà un autre secret révélé, alors. Je ne savais pas qu'il était neurasthénique. Il y a une question qui me taraude, c'est... Je le disais dans le récit, à l'époque d'Edouard Manet, le salon était la manifestation artistique de référence. Qu'est-ce qu'attendaient les membres du jury? C'est-à-dire, il y a le salon officiel, donc c'est une peinture très académique, et à côté de ça, il y a donc tous ces artistes qui sont rejetés à la porte du salon.
Plus ou moins rejetés selon les années, selon la composition du jury qui évolue sous le Second Empire et la Troisième République. C'est une peinture bien sûr contraire à celle de Manet. D'une manière générale, le salon et les jurés du salon sont hostiles au réalisme. Donc ils l'acceptent à travers Millet, ils l'acceptent peu à travers Courbet par exemple. Et donc la génération qui vient derrière, celle de Manet, celle de Fantin, de Le Gros, elle est rejetée. Notamment ceux qui passent pour les plus radicaux. Manet passe pour le plus radical au fond de cette nouvelle peinture, comme Duranty le dira dans les années 70. Donc il y a des critères esthétiques et puis il y a du corporatisme. Ceux qui finalement agissent sur la composition du salon ont des intérêts à défendre.
Mais qu'est-ce qui, au fond, fait scandale dans les œuvres de Manet aujourd'hui? Avec notre regard contemporain, on a du mal à imaginer ce qui faisait scandale chez Manet.
Et du reste, le balcon est exposé au salon.
Parce que, au salon officiel.
Oui, parce que ce qui est intéressant avec Manet, c'est que d'une année à l'autre, finalement, sa peinture est acceptée ou rejetée. D'ailleurs, Mallarmé va s'en étonner en disant il n'y a aucune logique dans le jury. On voit bien que ces gens-là ne sont même pas capables d'obéir à leurs propres critères.
Mais est-ce que, tout de même, avant sa mort en 1883, son travail était reconnu par ses contemporains? Il avait atteint ce qu'il espérait, c'est-à-dire la célébrité, la gloire et l'argent.
Vous avez raison de le dire. Je crois qu'il faut y insister. Parce que l'idée du peintre maudit continue à courir après lui. Non seulement il a des marchands, il a des collectionneurs. Durand-Ruel, par exemple, parmi les galeristes. L'un des plus grands chanteurs de l'époque, Faure, est un de ses collectionneurs. Pertuiset, on achète sa peinture. Et puis, en janvier 82, il n'a pas encore 50 ans, c'est la Légion d'honneur. Légion d'honneur, donc, décernée par le gouvernement Gambetta. Et alors là, ce qui est amusant, c'est que Manet, qui a toujours entretenu des relations avec le milieu républicain, va être payé de retour. C'est un grand artiste, certains le pensent, mais en plus, désormais, le monde politique le soutient.
Merci beaucoup Stéphane Guégan.
Merci à vous.
Nous avoir plongé dans l'ombre de l'atelier d'Edouard Manet. Je précise également que vous publierez très prochainement un livre sur un autre peintre du 19e, Caillebotte, peintre des extrêmes, qui sera disponible dès le 13 octobre aux éditions Hazan.
Merci à vous.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires pas comme les autres. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et pas comme les autres, Clémentine sont aussi les femmes de Sparte. Aux mœurs très libres, dit-on. Mais dit-on vrai?
Eh bien, nous l'allons voir, messieurs. Alors, si Athènes incarne un certain idéal politique dans le paysage antique, évidemment, Sparte, c'est bien connu, c'est l'idéal guerrier. Et nulle cité plus que Sparte n'a cultivé la vocation de ses habitants dans l'art de faire la guerre. Alors, évidemment, pour ce faire, il y a un seul moyen, pas de distinction entre hommes et femmes. Et donc, dès l'âge de 7 ans, les jeunes Spartiates sont envoyés au gymnase comme les garçons. Elles s'entraînent comme eux, complètement nue, donc en effet, pas de pudeur, de pudibonderie pour les jeunes filles. Et dans le stade, eh bien, elles pratiquent le lancer du disque, le javelot, et leur formation dure 11 ans. Vous voyez, de nos jours, où à l'époque on se plaignait de la durée du service militaire, chez les Spartiates, ça rigolait pas, 11 ans. Et du coup, à Sparte, on se marie plus tard qu'à Athènes. À Athènes, c'est vers 14 ans, à Sparte, plutôt vers 18. Et le processus du mariage est un truc absolument étrange, ahurissant. Pour leur nuit de noces, les femmes ont la tête rasée, on leur met la boule complètement à zéro, on les habille en hommes, elles attendent sur leur couche la venue de leur futur mari, qui symboliquement les kidnappe.
Et lui, il se déguise en femme ou pas, le mari?
Non, lui, il ne se déguise pas en femme, mais avouez que c'est étrange. Parce qu'on leur met la boule à zéro, on les habille en homme et bon, voilà.
Alors, ils préféraient peut-être les hommes, alors pour eux, comme ils étaient obligés de se marier pour avoir des enfants, ils l'a rasé, parce que ça faisait genre, ils étaient avec un homme.
C'est possible, enfin, en même temps, quand vous passez 11 ans à vous entraîner au javelot avec des femmes, vous savez comment ça fonctionne tout de même. Alors, évidemment, il n'en faut pas plus pour que les poètes, dramaturges, philosophes athéniens attribuent aux filles spartiates toutes les tares possibles. Vous voyez, Homère dans la guerre de Troie, l'horrible Hélène qui déclenche la guerre de Troie parce qu'elle quitte son mari Ménélas, elle est spartiate. Hein et donc, voilà ce qu'écrivent les Athéniens, même si elles le voulaient. Aucune fille de Sparte ne saurait être vertueuse. Elles désertent leur maison et les cuisses dénudées, le vêtement relâché. Elles partagent les mêmes pistes de course et les mêmes palaces que les garçons. C'est insupportable. Et après, doit-on s'étonner que vous n'éduquiez pas des femmes vertueuses? Ben oui, parce que les Spartiates ne s'habillent pas non plus comme les Athéniennes. Vous savez, les Athéniennes portent une sorte de tunique qu'on appelle le chiton. C-H-I-T-O-N, ça va à peu près sous le menton jusqu'au pied, une sorte de tunique plissée, c'est d'ailleurs très très joli. Mais les Spartiates, elles ont des tuniques courtes. Et elles ont reçu du coup des Athéniens le sobriquet de Phainomérides. Phainomérides, c'est-à-dire celles qui montent leurs cuisses. Et quand les deux cités sont en paix et que des Spartiates viennent à Athènes, et ben elles viennent avec c'est autant dire une mini jupe dans les années 60.
Donc oui,
pour les Athéniens, c'est extrêmement choquant. Elles ont aussi une forme assez, il y a une forme assez étonnante de parité à Sparte entre hommes et femmes. Les Spartiates peuvent posséder un bien, elles peuvent hériter, elles peuvent boire du vin. Si leur mari ne leur donne pas d'enfants, elles peuvent en changer. Alors évidemment, à Athènes, c'est quand même étrange. Si vous voulez une différence de mœurs, d'habitude dans des points essentiels de la vie de deux cités qui sont si proches et qui n'ont rien à voir. C'est extraordinaire. Alors, pour autant, la femme spartiate ne participe jamais au combat. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que, ok, on l'élève comme un homme, mais c'est pour qu'elle donne des enfants puissants. C'est pas pour qu'elle aille se battre sur le champ de bataille. Alors, cette éducation a quand même parfois des conséquences fâcheuses sur le comportement des filles. Telle adolescente, amoureuse d'un condisciple un petit peu timide, va se rendre chez lui et l'enlever tout bonnement après l'avoir assommée. Ah bah oui, si vous voulez, Oui, ça c'est chez les Spartiates, les femmes aussi ont le droit d'exprimer leurs désirs. Si elles ont vu un freluquet qui leur plaît, elles vont le pécho, hein, comme on dit aujourd'hui. Bon, Euripide ne tarit pas d'éloge sur la beauté physique des filles de Sparte, qui font énormément de sport, et Aristophane, derrière le sarcasme, on dit tout autant dans Lysistrate. Lysistrate, vous savez, la fameuse pièce où sont les femmes qui font la guerre, rêve du sexe, je vous en avais déjà parlé. Salut Lampito, ma très chère Laconienne. Ah, ma chérie, que tu es belle. Ah, quel teint superbe, comme ton corps est plein de vigueur. Tu étranglerais un taureau. Ma foi, oui, par les Dioscures. C'est vrai que je fais de l'exercice et du tape-fesse. Mais quel beau cette énorme paire de seins que tu as là, c'est Aristophane. Hein. Alors le tape-fesse, hein, bibasis de son nom grec, exercice lacédémonia par excellence et que les filles pratiquent tous les jours pour entretenir la puissante musculature de leurs jambes. Il consiste à courir en se tapant les fesses avec chaque talon, alternativement, et après en même temps. C'est des sauts, bien sûr, c'est des sauts et ça permet de rester en forme, de garder la ligne. Alors cette pratique avait aussi une autre destination, a été recommandée par Hippocrate à toute femme qui voulait avorter. Est-ce que c'était une façon de réguler les naissances? En tout cas, Bibasis, retenez ça le matin si vous cherchez un exercice efficace. C'est par excellence le sport des Spartiates. Chez Aristophane, toutes les Spartiates débordent d'appétit sexuel parce qu'elles font trop de sport. Et quand Aristophane écrit, tu pourrais étrangler un taureau, en fait, le mot taurus désigne aussi le sexe masculin. Donc, elle a cette pièce d'Aristophane est vraiment très, très cochonne. Hein. Alors, toute cette dureté de la fille spartiate, elle apparaît dans toutes les étapes de sa vie. Quand elle est devenue mère, elle doit s'enorgueillir du départ de son fils pour la guerre. Si un fils ne revient pas des combats, alors là, la mère se livre à des expressions de joie, à la mesure de la gloire dont s'est couverte son enfant. Un banquet célèbre la mort du héros. Bon, Par contre, si le fils revient vivant et ou sur le champ de bataille, il a reçu des blessures dans le dos, les mères vont sur le champ de bataille. Regarde, si leur fils a pris des blessures dans le dos, c'est qu'il a fui. Et s'il a fui, on le laisse boulotter par les chiens.
Oh,
et si le fils revient, si le fils revient seul survivant d'une bataille, elle a le devoir de le tuer de ses propres mains. Vous savez, messieurs, je vous adresse solennellement ce qui était le grand commandement des mères lacédémoniennes, des mères spartiates à leurs fils quand ils allaient combattre. Reviens vivant vivant avec ton bouclier ou mort dessus.
Eh ben, hein, c'est la fête, alors, Doc, ouais. Hein. On passe au quiz et puis bonne nouvelle pour vous, il y aura, oui, une question sur le Titanic.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Un peu de discipline dans ce studio, c'est le moment clé de cette émission, celui où Stéphane sait qu'il joue sa réputation. C'est pourquoi chaque jour avant le quiz, il se remobilise et se dit en son fort intérieur:
fini de se beurrer le moule.
Vous avez raison, jouons à Bern to be alive. Stéphane, la première question est pour vous et vous devriez en connaître normalement la réponse. Saint Gangolf d'Avalon est mort en 760 en Bourgogne-Franche-Comté. En 2002, ce militaire vénéré dans l'église catholique romaine a été choisi officiellement par le Vatican comme le saint patron d'Internet. Vrai ou faux?
Ah, il y a un saint patron pour Internet, ça je le sais.
Il y a un saint patron pour tout, mais pour Internet aussi.
C'est Gangolf, ça n'est
oui,
pas,
pas Gandalf. Hein, ouais. Ça c'est dans la, c'est le Seigneur des Anneaux, sans que vous mélangez vos histoires. C'est Saint Gangolf d'Avalon. Vous connaissez Avalon? Il y a un très bon ibis. Très, oui. Vous arrêtez à l'ibis.
Et
oui,
tonnerre,
quand vous descendez dans le sud, ça vous coupe la route. Je donne cette petite info comme ça, très simple.
Écoutez, il y a un saint pour Internet, mais j'avoue que je ne m'en souviens plus.
Mais peut-être, peut-être était-il un messager, vous voyez, un genre de Philippides là, qui aurait transmis un message et comme tel...
Bon, je vais dire oui.
Vous avez...
Il s'est lancé à l'eau et comme le Titanic, il a coulé. C'est faux. Eh oui. Gangolf, il est un saint patron. C'est le saint patron des maris trompés et des chasseurs, ben messieurs. Voilà. Vous qui pourchassez sans bien.
Les chasseurs, c'est voilà. Saint-Hubert, c'est pas Saint-Gangolf.
C'est Saint-Gangolf, je vous le lis. C'est le saint patron des maris trompés et des chasseurs en même temps. Le saint patron d'Internet existe, c'est Saint-Isidore de Séville, archevêque de cette ville au 7e siècle, car on lui doit une œuvre encyclopédique condensant les savoirs de son temps, un peu comme Internet. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Et nous y voilà. Nous y voilà, une petite question titanique.
Elle est pour moi, celle-ci.
Ça faisait longtemps. Au lendemain du naufrage, le quotidien britannique Daily Mirror a titré « Catastrophe pour le Titanic dans l'Atlantique lors de son voyage d'inauguration. Le plus grand navire a heurté un iceberg. Tous les passagers sont sains et saufs. » Vrai ou faux?
Oui, je pense que c'est possible parce que le Carpathia qui est venu les secourir a dû constater évidemment très vite qu'il y avait beaucoup de victimes, mais il devait être occupé à autre chose que transmettre des messages sur la côte à la presse, qui aura tenu compte des premières nouvelles qu'on lui a données pour pouvoir impérativement sortir une racoleuse. Donc c'est possible.
Quelle vision de la presse, hein, Clémentine. Vous dites
je
vrai.
Je dis oui.
Vous avez...
Eh bien, c'est vrai. Everyone safe, passengers taken off. Le Daily Mail aussi s'est trompé. Il a titré « No lives lost ». Il y a aussi une légère erreur de transmission et la réputation du Titanic comme navire insubmersible a fait le reste. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern, 1960. La République démocratique chypriote prend son indépendance du Royaume-Uni et se choisit un drapeau. C'est d'ailleurs le seul pays au monde à avoir sur son drapeau une carte représentant le territoire de l'État. Vrai ou faux?
Est-ce que c'est le seul?
Déjà, vous connaissez une partie de la réponse, c'est bien.
Oui, on voit sur le drapeau blanc et jaune, il y a le petit pays dessiné.
Est-ce qu'il n'y a pas un... Peut-être...
Je pense en Afrique, il doit y avoir... Je n'en parle des autosuites, non. Il porte un autre nom maintenant, mais...
Peut-être des principautés ou des petits états...
Je ne peux pas vous aider.
Est-ce que c'est le seul, c'est
Est-il ça,
c'est...
le seul pays dont le drapeau représente le territoire de l'État? Vrai ou faux?
Vous le voyez, ce drapeau, Stéphane, avec le...
Je vois très bien le drapeau de Malte, oui.
Non, alors on est sur Chypre.
Ah, de Chypre, oui, je veux dire,
c'est
oui.
C'est pas grave. Non, de Chypre. C'est pas grave, c'est pas loin, c'est une île aussi, comme ça.
Oui, je vois très bien, pardon.
Bon, la question n'aurait pas de sens, d'autre part, parce que si on a plusieurs, quel intérêt de nous expliquer?
Moi, je pense que oui, c'est le seul, mais il peut y en avoir un autre, et... Et je me demande... Bon, je vais dire que c'est le seul, allez.
Vous avez encore perdu.
Stéphane, mais enfin non. Il y a aussi, bien sûr, le Kosovo. Je sais que c'est pas un pays où vous vous rendez souvent, mais le Kosovo choisi son drapeau en 2008 en prenant son indépendance vis-à-vis de la Serbie. Chypre et Kosovo sont les deux seuls pays au monde à avoir la carte de leur pays dessinée sur leur drapeau.
Et ben, j'ai appris quelque chose.
Très
merci,
intéressant,
Mathieu.
Très intéressant.
Question
bravo.
Numéro 4, Clémentine, soyez extrêmement vigilante car une mauvaise réponse pourrait vous coûter 2 points.
D'accord.
C'est une règle que je viens d'inventer. Partons pour le 17e siècle. Clémentine, je vais vous offrir une paranomase. D'amour, vos beaux yeux, marquise, mourir me font. C'est pas de moi, c'est de Molière. La paranomase, c'est comme Maître Yoda, le fait d'intervertir les mots. Vrai ou faux?
Non, je ne crois pas, non. comment appelle-t-on ça? Non, c'est un palindrome. C'est le fait de pouvoir lire une phrase dans les deux sens, comme l'aval ou et la nave va papa venir à Naples. Ça, c'est un palindrome. Mais la paranomase.
Est-ce le fait, comme Maître Yoda, d'intervertir les mots?
Je vais répondre non, parce que ça m'est pas du tout familier, mais voilà. Bah écoutez, j'espère apprendre quelque chose. Là, non.
Vous avez gagné!
Vous avez gagné, et vous avez gagné exceptionnellement dans l'histoire de ce jeu. Moins un point.
Elle a gagné.
Nos auditeurs jugeront.
C'est une question de timing,
du scandale.
C'est une question de timing.
Non, mais écoutez.
Il y a effectivement un petit scandale là-dedans. Vous avez déjoué le piège. C'est effectivement. Ce n'est pas une paranomase, le fait d'intervertir les mots. Ça s'appelle l'anastrophe. La paranomase, c'est le fait de jouer sur des sonorités qui se ressemblent, comme par exemple Apollinaire dit comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Question numéro 5. Nous y voilà, puisque nous sommes à égalité. Ça tombe bien, question numéro 5, c'est la question de rapidité. De 1961 jusqu'en 1992, un fleuron de l'automobile fait briller l'excellence à la française, et ce dans plus de 28 pays. Je veux bien sûr parler de la 4L, appelée également Renault 4. Pendant longtemps, l'armée en a beaucoup commandé pour ses gendarmes, mais pour quelle raison? Parce qu'elle avait une boîte à gants large et qu'on pouvait fermer, pratique pour les armes. Parce qu'elle donnait une image sympathique. Ou parce qu'elle était la seule voiture que l'on pouvait conduire en gardant son képi.
3.
3.
Oh, Clémentine s'est vengée. Et vous l'avez laissé gagner.
Oui.
Clémentine,
bravo.
C'est chevaleresque, Stéphane, et c'est tout à votre
Merci
honneur.
Merci Stéphane,
effectivement,
vous êtes bien bon.
Non, mais elle a bien joué.
Vous l'avez déduit, vous le saviez?
Je l'ai déduit.
Eh bien oui, c'est rigolo. On pouvait garder son képi dans la 4L, sauf si on mesurait 1m90. Je n'aurais pas pu garder mon képi, mais comme je n'aurais pas pu être gendarme non plus, puisqu'il devait y avoir des épreuves.
Et puis vous n'aimez pas les 4L, vous aimez les choses.
Je vous en prie, j'adore la 4L.
Oui,
les deux chevaux, les 4L, j'adore les voitures
sûr.
De ces années-là,
oui.
En toute simplicité et sans chichi. Bravo, Clémentine Portier-Keltenbach, vous l'emportez.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui vous dévoile les secrets des stars de l'histoire. Et des secrets, on en a tous. Hors antenne, Stéphane, vous m'en livrez même un, pas piqué des hannetons, au sujet de Clémentine Portier-Keltenbach.
Quand elle avait 73 ans, elle couchait avec un homme qui en avait 43 et qui était homosexuel.
Mais voilà, Stéphane, certains ont quand même beaucoup plus de secrets que d'autres.
Ah, c'est clairement le cas de nos personnages du jour, Mathieu. Ils sont sacrément secrets. Après Édouard Manet, je vous présente un autre grand mystérieux, l'écrivain américain J.D. Salinger, le célèbre auteur de l'attrape-cœur qui était difficile à saisir tant il n'a jamais rien confié sur sa vie. Mais en termes de mystère, c'est vous qui décrochez le pompon aujourd'hui, mon cher Mathieu, avec le portrait de Mylène Farmer.
Oui, côté secret, Mylène Farmer en tient une sacrée couche, un mystère qu'elle a savamment entretenu tout au long de sa carrière. On ne la connaît finalement qu'à travers les racontars, les ragots de journalistes peu fiables qui nous disent de Mylène qu'elle est...
connue pour ses mœurs scandaleuses, ses aventures homosexuelles avec des voyous de passage.
Justement, non, Stéphane, nous essaierons. Je ne sais plus de qui en parlait.
De l'infant d'Espagne
avait
épousé Marisset.
Ah oui, ça c'était un peu n'importe quoi. Hein. Oui. Non, vous allez, on va essayer d'y comprendre un peu plus, d'y voir un peu plus clair dans la vie de Mylène Farmer, mais ce n'est pas simple.
Et justement, nous avons nos chroniqueurs qui sont là.
Eux, ils sont... lit en eux comme dans
oui,
un livre.
Oui, bon, ils ont des secrets à nous conter. Et d'ailleurs, David Casel-Lopez, vous remontez aux origines des Transformers.
Oui, Transformers. Je suis un petit peu sur une série des jouets des années 80, là.
Oui.
Et là, j'ai retrouvé un vieux coffre à jouets chez vous et puis c'est les
vous
chroniques pour
quoi.
Le mois à venir.
Je déroule. Non, là, je
vous les vendez sur Internet.
Ça va se tarir.
Il fait la promo
encore.
Pour les vendre.
Après, il a sur eBay. Il dit, ça a cartonné.
Ouais. Non, j'ai pas de trucs de collection, donc ça va pas. Donc oui, je vous raconterai l'histoire de ces Transformers, ces robots objets.
Et puis avec Olivier Poul, c'est bien, nous partons pour la Vendée, pour une recette gourmande de haricots blancs.
Oui. Qu'on appelle là-bas les mogettes. C'est la mogette de Vendée. Je vous raconterai d'où elle vient, parce qu'elle ne vient pas de Vendée. Et je vous donnerai même peut-être deux idées de recettes à faire avec les mogettes, parce qu'il y a vraiment tellement de choses qu'on peut faire avec ce petit haricot magique que j'ai pas résisté au plaisir de doubler la mise aujourd'hui.
Mais n'oublions pas qu'en fin d'émission, nous nous étriperons. Ce sera la lutte finale, ce quiz conçu par Stéphane Bern sur le principe machiavélien du diviser pour mieux régner. Mais tout de suite, partons à la rencontre de notre deuxième personnage sacrément secret. Il est le célèbre auteur de l'attrape-cœur, peut-être le plus difficile à attraper, à saisir, tant il s'est caché derrière ses livres sans jamais parler de lui, ni même accepter de se montrer pendant de longues années. Stéphane Bern nous raconte J.D. Salinger, l'écrivain sacrément secret.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Au Au matin du 28 janvier 2010, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. L'écrivain américain J.D. Salinger est mort la veille à l'âge de 91 ans. Les hommages pleuvent. C'est l'un des plus grands auteurs que l'Amérique du XXe siècle a connu qui vient de s'éteindre. Salinger ou l'alter ego de son héros le plus connu, le jeune Holden Caulfield. Depuis la publication de l'Attrape-cœur en 1951, des générations d'adolescents à travers le monde se reconnaissent dans les tourments du fugueur de 17 ans, dans la crise existentielle qui accable ce gosse perdu à la croisée de l'enfance et de l'âge adulte. Mais alors qu'on apprend sa disparition dans les colonnes des journaux ou sur l'écran d'un smartphone, certains s'étonnent. Salinger n'était-il pas mort et enterré depuis bien plus longtemps déjà ? Il n'existe aucune photo récente de lui. Aucune interview qu'il n'ait donnée après 1981 et surtout, depuis 1965, pas un seul nouvel ouvrage signé de sa plume. Où J.D. Salinger était-il donc passé pendant ces décennies de silence ? Pour le savoir, retour en 1951. Nous sommes au cœur du mois de juillet dans l'agitation new-yorkaise. Ce matin-là, J.D. Salinger, grand gaillard de 32 ans, au trait émacié, s'est posté sur un trottoir juste en face d'une librairie. Dans la vitrine, on est en train de disposer un tout nouveau roman à la couverture rouge sang. Son titre, The Catcher in the Rye. En français, les éditeurs choisiront l'attrape-cœur. On est le 16. C'est le jour de la parution que Salinger attendait anxieusement. Les lecteurs vont enfin rencontrer son personnage, celui qu'il a mis 10 ans à façonner. Dans l'attrape-cœur, l'auteur relate les pérégrinations d'Holden Caulfield qui erre seul dans New York pendant 3 jours car il n'ose pas rentrer chez lui pour affronter ses parents. À la veille des vacances de Noël, l'adolescent a été renvoyé de son lycée Pensée Prep après avoir échoué dans 4 matières sur 5. Dans cette expérience initiatique, on suit Holden dans un hôtel miteux, on l'accompagne en virée dans un bar, on lit ses tourments amoureux et sexuels. Le livre est écrit à la première personne, le langage particulièrement familier, souvent grossier, et le succès, lui, est instantané. Jamais la littérature n'avait produit un tel objet. Mais en 1953, alors que le succès de son livre ne faiblit pas et lui assure une belle fortune, J.D. Salinger quitte New York pour toujours. Il part 400 km plus au nord dans l'état du New Hampshire. C'est dans le village de Cornish, 1500 âmes, qu'il déniche son sanctuaire, une petite maison perchée au milieu d'une grande forêt de séquoias. Pour un grand solitaire comme lui, c'est le pied. Car Salinger exècre l'agitation de la ville. Il ne supporte pas les sollicitations constantes de ces crétins de journalistes qui déforment chacun de ses propos. À Cornish, chaque matin, c'est le chant des oiseaux ou le cri de ses enfants qui le réveille. Et chaque jour, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est le même rituel. Salinger traverse le jardin, sort une clé de sa poche pour déverrouiller la porte de sa cabane et s'engouffre dans son antre pendant des heures. À l'intérieur, un lit de camp, une banquette arrière de voiture qui lui sert de fauteuil et, au centre, un petit bureau sur lequel sa machine à écrire trône. Salinger noircit des pages et des pages de papier. Les piles s'entassent à chaque recoin de sa cabane. Il publie encore un roman, Franny and Zoe, et plusieurs nouvelles. S'il est convoité par les éditeurs, Salinger est aussi leur bête noire. Il impose des clauses spéciales dans ses contrats qui doivent stipuler clairement 2 choses. L'éditeur s'engage à ne jamais faire de publicité sur son auteur et à ne jamais, au grand jamais, diffuser sa photographie. Mais en 1965, c'en est fini. L'écrivain secret publie son dernier texte à l'âge de 46 ans. Pourtant, ses journées sont toujours consacrées à l'écriture. Mais tout comme lui, ses manuscrits ne quittent plus les hauteurs de Cornish. Il les enferme même dans un gros coffre-fort dont personne ne doit s'approcher. Salinger se terre, mais dehors, le monde continue de tourner. L'attrape-cœur se vend toujours plus et son héros est désormais un objet d'études scolaires. Hollywood veut en racheter les droits pour faire d'Holden Caulfield un héros de cinéma. Mais depuis son repère verdoyant, Salinger enterre bien vite les rêves des producteurs. Que les choses soient claires, les droits de son roman ne sont pas à vendre et ils ne le seront jamais. Cet écrivain reclus qui fuit toute demande d'interview suscite une fascination grandissante. Les journalistes rivalisent d'idées pour obtenir enfin quelques mots ou un cliché nouveau de Salinger. Dès les années 70, c'est une traque sans fin qui commence. Au village, on remarque tout de suite les curieux qui débarquent avec un plan du cadastre, un appareil photo et un bloc-notes sous le bras. Ils sont à la recherche de Salinger. Et les habitants s'amusent à brouiller les pistes. À ceux qui leur demandent où se trouve la propriété de l'écrivain, ils indiquent une mauvaise direction. Des photographes s'aventurent dans la forêt et se perdent, trouvent enfin la maison, se cachent derrière un arbre, attendent et clic-clac, immortalise enfin l'écrivain. En 1981, une journaliste locale déniche une info. Salinger a pour habitude de faire ses courses au Cummins Corner. Elle y attend un magnétophone caché sous le manteau. Quand enfin il se présente, Betty Epps enregistre sur le parking d'un supermarché la toute dernière interview de Gigi Salinger. Jusqu'à sa disparition, il ne quittera plus son village de Corniche. Nombreux sont ceux qui s'aventureront jusqu'à son portail dans l'espoir d'obtenir ses mots, mais toujours en vain. Salinger était un grand solitaire, un brin misanthrope. Malgré le succès, il avait choisi de fuir le monde. Il voulait simplement qu'on lui fiche la paix, peut-être parce qu'il avait connu la guerre. En 1944, alors qu'elle plongeait depuis 5 ans la planète entière dans le chaos, Salinger avait revêtu l'uniforme des GIs américains. Le 6 juin, il avait débarqué à Utah Beach, en Normandie. Le bruit des bombes, la mort des hommes, l'horreur des camps, tout ça l'avait profondément traumatisé. En Europe, il avait laissé une partie de lui-même. Salinger avait connu la folie des hommes et voulait vivre en paix. Comme son héros Holden Caulfield, il avait sans doute imaginé qu'à sa mort, on graverait ses mots sur sa pierre tombale. Allez tous vous faire foutre.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour essayer de percer le mystère Salinger, nous sommes avec celui qui lui voue un véritable culte, un écrivain peut-être un poil moins discret. Bonjour Frédéric Becbédé.
Bonjour Mathieu, bonjour Stéphane.
Bonjour Frédéric, faut-il le rappeler, vous êtes écrivain, critique littéraire et grand admirateur de Gigi Salinger, à qui vous avez même consacré un livre, Ona et Salinger, paru chez Grasset. Qu'est-ce qui vous fascine tant chez l'écrivain américain le plus secret du XXe siècle ?
Oh ben c'est son style d'abord, parce que j'ai beau lire et relire son œuvre qui est assez brève, on peut lire presque tous les livres de Salinger en un week-end, je n'arrive pas à percer le mystère de ce charme. Il y a une sorte de désespoir et en même temps de naïveté, comme un mélange d'innocence et de pessimisme qui est unique, tout simplement, c'est vraiment unique. J'arrive pas à trouver ça ailleurs. Personne n'a jamais atteint cette espèce d'ambiguïté entre la pureté et le malheur.
À quel âge vous l'avez lu pour la première fois, l'Attrape-cœur, Frédéric Becbédé ? Qu'est-ce que vous avez ressenti à la première lecture ? On comprend que vous l'avez lu plusieurs fois.
Oh, j'ai dû le lire vers l'âge de 15-16 ans. Bah, tout simplement, j'ai entendu une voix amie. J'avais l'impression d'entendre quelqu'un qui me comprenait ou qui mettait des mots sur un malaise, sur une sorte de tristesse que j'ignorais, qu'on a tous en nous en fait, parce que rien que le fait de grandir est déprimant, et donc il y a cette il a capté cette chose là et puis surtout c'est très marrant, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est à la fois très léger, révolté et très profond. Alors il y a d'autres, vous avez dit que c'était unique et c'est vrai, mais il y a d'autres livres qui sont comme ça, comme L'étranger de Camus. Vous avez Le voyage au bout de la nuit de Céline. Il y a des livres avec des personnages qui sont un peu blasés, revenus de tout, et en même temps très libres, très, je dirais rock'n'roll avant la lettre, puisque tous ces livres sont parus avant que le rock n'existe. Et c'est peut-être ça aussi je pense que L'Attrape-cœur, c'est un livre qui a changé le monde. Il faut bien comprendre ça. 1951, c'est une période quand même extrêmement coincée, avec des structures familiales, religieuses, la société de consommation aussi. Et tout ça, il en voit promener. Et ensuite, le monde change. Ensuite, il y a le rock, il y a les hippies, il y a les beatniks, il y a mai 68. Et tout ça est postérieur à ce roman. C'est là où on voit l'importance d'un roman. Un roman peut vraiment changer notre façon de vivre.
Ce que les auditeurs ne savent peut-être pas, c'est que vous aussi, vous vous êtes rendu à Corniche, le village de Salinger dans le New Hampshire, juste avant sa mort. Racontez-nous ce qui s'est passé là-bas.
J'étais parti avec Jean-Marie Perrier pour réaliser un documentaire qui s'appelle « L'attrape Salinger ». Et l'idée, c'était d'essayer d'aller interviewer l'écrivain le plus reclus au monde. Donc on a commencé par rencontrer pas mal de gens à New York, puis ensuite à Corniche, on a fait le chemin en voiture, et à la fin on est quasiment arrivé devant chez lui. Là il y avait un panneau avec écrit No trespassing, n'entrez pas en gros.
Ça fait toujours peur ça.
Mais oui, surtout que la devise du New Hampshire c'est Live free or die, vivez libre ou mourrez. Donc, sachant que Salinger était un vétéran de l'armée américaine, sans doute probablement armé, j'ai eu un petit moment de lâcheté. J'ai dit, bon, ben, on va peut-être pas aller le voir. On va peut-être laisser tomber. Cette idée est une connerie. Et puis, le documentaire se termine. Non, mais c'est surtout par respect, en fait, pour le désir de cet écrivain que j'adore, qui était d'être seul et d'être, qu'on lui foute la paix, comme vous l'avez dit.
Et si vous l'aviez eu néanmoins face à vous, qu'est-ce que vous aviez prévu lui poser comme question?
Je voulais savoir s'il était heureux. À vrai dire, toutes les biographies, toutes les enquêtes qui ont été faites sur lui disent deux choses. Qu'il était totalement invivable et insupportable, et en même temps, qu'il voyageait, qu'il est venu souvent à Paris, qu'il est venu à Londres, qu'il allait à l'opéra. Donc il avait une vie sociale. Et si vous voulez, bon, c'est un peu comme un Daft Punk de la littérature.
Oui, c'est ça. Oui personne ne savait qui il était. Il pouvait aller où il voulait.
Il pouvait aller où il voulait. Et il a rencontré des gens. Il a eu des histoires d'amour avec des lectrices. Enfin, il a eu des tas de choses qui lui sont arrivées. Donc, c'est fascinant, évidemment. C'est fascinant. C'est comme un disparu, mais en même temps, qui reste en vie dans la société.
D'ailleurs, dans Ona et Salinger, vous racontez l'histoire d'amour entre l'écrivain et Ona O'Neill, la future Madame Charlie Chaplin, avant que la Seconde Guerre mondiale ne les sépare. Oui. Et vous écrivez que c'est sans doute cette histoire qui lui a inspiré son plus célèbre roman. Dans quelle mesure?
C'est-à-dire que cet échec amoureux suivi d'une séparation tragique avec la Deuxième Guerre mondiale, la trahison, cette impression de trahison puisqu'elle a épousé la plus grande star du monde, c'est déjà compliqué de se faire larguer en pleine guerre, mais en plus, larguer pour l'homme le plus connu de la planète, c'est quand même une humiliation, quoi. Parce que vous la voyez en photo dans tous les journaux. Donc, vous êtes en train de débarquer en Normandie, de traverser la France, de libérer Paris, et ensuite de découvrir l'horreur dans un camp près de Dachau. Et pendant ce temps-là, votre petite amie, épouse une star de cinéma. Donc je pense qu'il a eu le cœur brisé par à la fois les horreurs de la guerre et puis sur le plan personnel et sentimental, peut-être une grosse déception. Donc ça a dû lui inspirer ce ton, cette espèce de mélancolie permanente de toutes ces nouvelles et de ce roman.
Frédéric Becbédé, justement, vous aussi, vous êtes un écrivain rock'n'roll, mais qui gérait, disons, les médias d'une autre manière que Salinger. Vous n'avez jamais hésité à jouer avec les médias. Comment vous comprenez cette volonté de se retirer de la société, s'éloigner des médias alors même que son œuvre cartonne? C'est quelque chose que vous pouvez concevoir ou ça vous paraît un peu fou?
Non, je pense que il y a une logique. D'abord, il avait les moyens de le faire, puisque avec ce roman traduit dans le monde entier, il avait une rente chaque année de plusieurs centaines de milliers de dollars, donc il était à l'abri du besoin. Et puis, je pense qu'il avait une haute idée de la littérature et qu'il pensait que tout ce qu'il avait à savoir sur lui était dans ses livres. Ça, c'est avoir une confiance inouïe dans l'art, quoi, de se dire, voilà, moi, je n'ai pas besoin d'expliquer mon travail. Il y a eu des critiques qui n'étaient pas bonnes sur Franny and Zoe. Donc, il a été vexé, probablement aussi. Et il s'est dit, j'ai plus besoin de parler avec le reste du monde ailleurs que dans mes livres. Et puis ensuite, le grand mystère, c'est qu'en 65 à 46 ans, il décide de ne plus publier.
Il ne publie plus, mais il continue à écrire.
Oui, c'est ça.
Rêve, c'est peut-être un jour qu'on découvre les inédits, parce que tous ces feuillets noircis comme ça dans son antre, ils vont bien sortir un jour.
Oui, sa fille a dit dans son livre qu'il y avait une douzaine de manuscrits terminés. Et que c'est maintenant entre les mains des ayants droit de décider s'ils vont le publier ou pas. Régulièrement, il y a des rumeurs qui annoncent un roman inédit de Salinger. Donc, il faut attendre. Il y a également des dizaines de nouvelles inédites qui ont été publiées dans des revues dans les années 40 et que j'ai retrouvées pour travailler sur mon livre. On peut les trouver sur Internet, parce qu'elles ont été publiées dans des revues, mais là aussi, la famille refuse de les rééditer. Donc en fait, il y a tout un corpus de manuscrits auxquels on n'a pas accès pour l'instant. Et ça, c'est fascinant également, oui. Oui, c'est vrai que c'est extrêmement rare.
Il fait beaucoup parler.
Toujours, oui.
Gigi Salinger. Merci Frédéric Becbédé. Je rappelle que votre livre Ona et Salinger est toujours disponible aux éditions Grasset et vient de sortir chez Baker Street, Le Sergent Salinger de Jérôme Charine.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages qui étaient sacrément secrets. Après Édouard Manet et Gigi Salinger, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai de la plus mystérieuse des chanteuses françaises, Mylène Farmer, la première chanteuse à avoir rempli le Stade de France. C'est pas rien quand même.
Oui Stéphane, surtout pourquoi elle et pas vous? Une carrière se joue à rien, un détail, une opportunité, on le sait peu car la maquette n'est jamais sortie, mais en 1987, quelques mois avant que Mylène ne sorte ce qui va devenir son plus grand tube, vous aviez vous-même Stéphane proposé une chanson assez proche que je vous propose de nous faire découvrir maintenant.
Dis maman, pourquoi je suis pas un Bourbon? Puisqu'il faut choisir un mot doux, je peux le dire sans contrefaçon, je suis un Bourbon.
Mais pourquoi la maison de disques a-t-elle finalement préféré la version de Mylène? C'est un mystère, comme d'ailleurs Mylène elle-même. Un mystère parfaitement calibré. Je veux demeurer un mystère pour les autres comme pour moi-même, a-t-elle un jour déclaré en reprenant les mots de Louis II, dit le roi fou. Oui, comme la sauce du Big Mac, l'origine des statues d'Île de Pâques ou encore le succès du rappeur Jules, Mylène Farmer est un mystère. Et je marche sur des œufs en tentant ce portrait, car ce n'est pas des fans que Mylène Farmer a, mais des gardiens du temple, des ayatollahs de la millénitude qui ne supportent pas qu'on touche à leur idole. Un mot de travers et on est immédiatement mis à l'amende.
L'ossa touche pas ma chop.
Calmez-vous Stéphane, je n'ai encore rien dit. Parmi les plus grands fans de Mylène, Stéphane Bern donc, mais également Brigitte Macron, ce qui nous permet d'avoir une idée plus précise de ce qui se passe à l'Élysée une fois les rideaux tirés. Stéphane resserre un verre de Château Margaux à Emmanuel Macron, lui dit « Allez Manu, te bile pas pour les sous-marins, à l'exportation il nous reste le pinard. » Puis il lui tend un ukulélé et la soirée démarre car on le sait peu, mais notre président a un joli brin de voix.
Je suis libertine, oh. Non, je suis une
catin. Eh oui, tout le monde aime Mylène Farmer. Elle fait partie de ces artistes qui ne font plus débat. Elle est Mylène Farmer, c'est tout. Ses concerts sont de grandes messes et ses fans sont des fidèles. Le magazine Challenge la place parmi presque chaque année en pole position des chanteurs français les mieux payés. Le clip de Sans Contrefaçon a été vu 7 435 000 fois sur YouTube, soit plus que je possède de la thune de David Castello-Lopez, ce qui fait que mathématiquement, Mylène possède encore plus de thunes que David Castello-Lopez. Pourtant, on ne sait quasiment rien de la femme derrière l'artiste. Mylène, qui se cache derrière ce prénom de secrétaire de direction dans une PME de l'Ain spécialisée dans les toneurs d'imprimantes? Ce mystère est-il purement une stratégie marketing? Amélie Nothon, qui l'adore, dit d'elle « Pour avoir côtoyé Mylène, je pense qu'elle cultive l'inaccessibilité qui la caractérise, mais je crois aussi qu'une part lui échappe. J'ai pu m'apercevoir que lorsqu'elle est cordiale, on sent quand même quelque part une muraille de glace. » Le mystère est aussi dans les textes de ses chansons. J'ai devant moi les paroles de son titre « Dessine-moi un mouton ». Je lis « Quelle solitude de mourir sans certitude, d'être au moins une particule de vie, un point minuscule utile à quelqu'un. Quelle solitude d'ignorer ce que les yeux ne peuvent pas voir, le monde adulte isolé, un monde abrupt, et là, je broie du noir. »
Je vois pas le rapport.
Moi non plus, mais c'est pas grave. C'est Mylène. Kandinsky non plus, on comprend pas ce qu'il peint, c'est beau quand même. Alors, d'où viens-tu, mystérieuse Mylène? Mylène Gauthier naît le 12 septembre 61 à Pierrefonds, au Québec, le pays de l'hydrocution et des gens gentils, où son père, Max Gauthier, ingénieur des ponts et chaussées, a été affecté pour construire un barrage. Elle grandit entourée de trois frères et sœurs, Brigitte, Michel et Jean-Loup. Fun fact, la première école qu'elle fréquente est tenue par des religieuses qui instruisent à l'époque, sans le savoir, une future catin. Adolescente, Mylène ne rêve pas un seul instant de devenir chanteuse, mais vétérinaire ou cavalière. Elle adore les animaux et les tétraplégiques. Je m'explique, à l'adolescence, Mylène est très tournée vers les autres et chaque été qu'elle passe en France, en Bretagne, alors que nous, on se faisait plaisir à l'UCPA en pensant qu'à nos pommes, elle va rendre visite à des jeunes tétraplégiques à l'hôpital. Vous ouvrez de grands yeux, Stéphane, c'est normal. Oui, vous avez bien entendu, Mylène Farmer est la seule star qui allait voir des gens hospitalisés avant d'être une star, et donc avant que ça puisse lui servir en termes d'image. Le tournant, ce qui fait que Mylène Gauthier va devenir Mylène Farmer, c'est une chute de cheval, chute gravissime qui l'oblige à renoncer à son rêve initial, devenir monitrice hippique. Elle découvre alors le chant aux côtés de sa mamie. À 18 ans, elle quitte le lycée, ses parents, ses rêves équestres, et s'inscrit au cours Florent, à Paris. Au début, elle tourne dans des pubs, puis en 1982, alors que son grand rêve, c'est de rencontrer Freddie Mercury, elle rencontre à la place le musicien français Laurent Boutonnat, qui va devenir son Pygmalion, son René, son Orlando, son guide et son mec. Par la même occasion. En 84, le duo sort un premier single, Maman a tort. Mylène Gauthier devient Mylène Farmer. Le titre est un succès qui se transformera en phénomène lorsque le public découvre ça.
Je
suis libertine. Je suis une catin.
Elle est libertine, mais elle est si fragile. Elle est une catin, mais on doit lui tenir la main. Les Français, grands amateurs d'ambivalence, adorent. Cette Ignace Rousse et ses clips réalisés comme de véritables courts-métrages deviennent sa marque de fabrique. L'album Ainsi sois-je en 88 est certifié disque de diamant. Les victoires de la musique tombent, les albums s'enchaînent, Mylène devient une star obsédante pour des fans pas toujours équilibrés psychologiquement. Hélas, le 14 novembre 91, déçu que Mylène ne réponde pas à ses courriers, un fan se rend dans sa maison de disque dans l'espoir de la croiser. Le réceptionniste refuse de lui donner son adresse perso, le fan sort un fusil et le bute. Alors je vous le dis Stéphane, très clairement, si un fan bizarre me demande votre adresse, je lui donne direct. En 94, après une tentative infructueuse au cinéma, Mylène décide de prendre un peu de recul en Californie, mais elle revient l'année suivante, elle chante avec Seal, avec Sting, publie un livre pour enfants, devient une star en Russie, c'est l'étape obligée pour toute chanteuse française digne de ce nom. Elle devient également la première femme, on l'a dit, à se produire au Stade de France. Son secret, son petit plus, ce qui pourrait expliquer son statut à part, peut-être sa science du marketing, des produits dérivés. En marge d'un concert de Mylène, vous trouvez moult idées cadeaux, goodies Mylène Farmer, t-shirt Mylène Farmer, mug Mylène Farmer et Stéphane Vibro, Mylène Farmer. Oui, vous avez bien entendu, David, essuyez-vous la bouche. En 2009, elle sort un sextoy estampillé MF, enfermé dans un petit cercueil de 20 cm, vendu à seulement 1000 exemplaires, prix de l'objet, 100 euros. Quel dommage que l'anniversaire de David soit passé. En revanche, Stéphane, je crois savoir que celui de Brigitte arrive. Belle soirée d'anniversaire en perspective. Emmanuel, tu peux faire chauffer le ukulélé.
Cendre de lune, petite bulle d'écume, perdue dans le vent, j'ai brûlé, je m'en
vous rume. M'inviterez, Stéphane?
Je ne peux hélas
vous s'amuse inviter à la lanterne.
Qu'à mon anniversaire.
Ah, c'est vrai, vous ne pouvez pas m'inviter
je
quand même.
Je ne fais pas les invitations du président.
Il chante un peu le président parfois ?
Je ne sais pas.
Vous ne l'avez jamais entendu ?
Non. Je sais que
c'est si,
très bien du piano.
Il a chanté un petit peu à la télévision une ou deux fois.
Ah oui ?
Mais avec Cyril Eldin.
Il s'est laissé un petit peu aller
au
champ. J'ai lu que Brigitte aimait... Ah non, ça vous ne le saviez pas ?
Je ne sais pas.
Ah non, c'est vrai,
c'est
pas une connerie, c'est pas le son de faux. Brigitte adore Mylène Farmer, oui. Vous le connaissez moins que moi, qu'est-ce que vous racontez ?
En revanche, oui, il y a beaucoup de légendes sur Mylène Farmer.
Mais elle a essayé...
Elle cultive.
Elle le cultive beaucoup, mais comme disait, à mon avis, Amélie Nothomb, elle s'est un peu, à mon avis, enfermée. Je dis ça de loin, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'elle s'est un peu enfermée dans ce personnage distant, lointain, et qu'elle a cette espèce de mur de glace quand même, toujours, même dans l'intimité.
Mais elle a réussi à préserver quand même une belle partie de ses mystères et de son secret sans que les paparazzi aient tout défloré. Elle est quand même assez habile.
C'est vrai, c'est habile.
Merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour que nous laissons à leur mystère pour retrouver deux garçons qui cultivent, eux aussi, Mathieu, une certaine forme de mystère, mais qu'ils dévoilent à l'antenne, évidemment.
Mystère, voire de bizarrerie, car quand même, se boire du Viandox en jouant à Super Mario, c'était pas le quotidien de tout le monde. Mais ça, pourtant, ça nous permet de reconnecter avec notre quotidien chaque jour. L'origine d'une invention culinaire, d'abord avec vous, Olivier Pouls, les mojettes.
Oui, ces délicieux petits haricots, spécialité de Vendée, que nous avons cuisiné tout à l'heure.
Et spécialité de Vendée, tout de suite. David Castello-Lopez nous entraîne aux origines d'un jouet, d'une invention, les Transformers. Stéphane, vous êtes passé à côté.
Ah
c'est
oui,
dommage.
Vraiment, mais eux aussi.
Alors, les Transformers, pour ceux d'entre vous qui connaissent pas, j'imagine qu'il y en a quand même, c'est une ligne de jouets, et ce n'est pas n'importe quelle ligne de jouets, c'est une ligne de jouets des années 80. Et en tant que tel, c'est un jouet qui a contribué à façonner la personne que je suis. Et pas vous alors, Mathieu, vous m'avez dit que vous...
Non, ça n'a pas façonné la personne que je suis, j'en ai eu deux.
C'est pas très grave, mais comment ça se présente, les Transformers? Eh bien, pour résumer, on pourrait dire que ce sont des robots, mais ce sont des robots pas comme les autres, parce qu'ils peuvent camoufler leur nature de robot en se faisant passer pour des objets du quotidien. Le plus souvent des véhicules, des camions, des voitures, etc. Mais quelquefois aussi, peut-être on le sait moins, des objets de plus petite taille comme des Walkman ou des revolvers. Alors pour me remettre dans la peau de l'enfant que j'étais, j'ai racheté un Transformer la semaine dernière que je vous présente ici. Il s'appelle Bumblebee. Bumblebee en anglais ça veut dire bourdon. Et Bumblebee, vous le voyez bien, c'est une voiture jaune qui ressemble un peu à une sorte de Porsche, je parle sous votre contrôle,
alors, c'est très,
Mathieu.
C'est très, très, très loin de ressembler à une Porsche, David,
un
mais
petit
je
peu
vais.
Quand même.
Non, ça ressemble à une voiture américaine,
un petit peu,
Ford Mustang,
c'est vrai.
Plutôt.
Ah oui, voilà. Donc à une Ford Mustang. Et bien sûr, cette Ford Mustang, elle cache quelque chose, car si vous faites pivoter chaque côté de la voiture de cette façon, eh bien, vous voyez qu'est-ce qui apparaît ? Eh bien, un robot avec un bras en forme de missile et un air, si vous voulez, à la fois déterminé et compétent. Si vous voulez, Bumblebee, sous forme de voiture, il est mignon, mais sous forme de robot, il n'a pas du tout l'air d'avoir envie de déconner. Regardez-moi ça, vous voyez ? Et franchement, si avec tout ça, vous n'avez pas envie de savoir d'où ça vient les Transformers, je peux rien pour vous, mais je sais que vous avez envie de savoir.
Oh, on en brûle
même envie. Vous, Stéphane.
Oui, alors, surtout moi.
Alors, les Transformers, pas de surprise folle, hein, ils viennent comme très souvent les choses hein, du Japon, et ils prennent leurs racines, plus précisément, dans le Japon d'après-guerre. Le Japon après la guerre, vous savez, c'est un pays vraiment bien ruiné comme il faut, hein, et aussi assez humilié. Et j'ai lu quelques psychanalyses collectives du Japon, vous voyez, qui parlent de l'esprit japonais d'après-guerre et qui voient dans cette humiliation les racines du goût des Japonais pour les robots. Avec l'idée suivante, ce qui expliquait la défaite du Japon contre les États-Unis, c'est qu'ils avaient été dépassés par la technologie des États-Unis. Et donc, après la guerre, les Japonais sont devenus fans de technologie comme une sorte de chemin vers la rédemption et vers le fait de retrouver leur dignité. Et le robot, bien sûr, c'était l'incarnation suprême de l'avancée technologique. Et non seulement le Japon, après la guerre, a commencé un peu à robotiser ses industries, mais dans le même temps, la culture populaire a commencé à mettre des scènes de robots un petit peu partout. Il y a un mauvais critique de Télérama pourrait dire, si vous voulez, que les artistes se sont emparés du thème du robot, voyez. Qui se souvient de Astro, le petit robot, par exemple?
Tout le monde s'en souvient.
Et ben, c'était
Stéphane, Astro, le petit robot.
Astro, le petit robot, ça, ce serait éventuellement possible. C'était un... C'était
Nono, le petit robot.
Non, ça, c'est autre chose.
C'est autre chose.
Ulysse 31.
Astro le petit robot, c'était un robot en forme d'enfant qui était à la fois très puissant et très mignon une fois de plus, et qui a été le premier gros succès du manga après la guerre. Et à partir de là, les Japonais, ils ont commencé à faire des robots partout. Et au bout d'un moment, dans les années 70, ils ont essayé de rendre ces robots plus cool en donnant la possibilité aux enfants de changer certaines parties du corps du robot et finalement de les transformer. Les Transformers, tels qu'on les connaît, ils sont nés au début des années 80. Les Américains, ils ont racheté assez vite les droits pour les États-Unis et ils ont fait complètement exploser les Transformers dans le monde entier, pile poil au moment où on était enfant. Et bien sûr, comme toujours, il y a eu des dessins animés, tous ces films d'animation qui sont eus avec. J'ai revu quelques passages de ces dessins animés pour préparer cette chronique. Ça a très mal vieilli. Il y a quand même des choses qui manquent totalement de logique dans ces dessins animés. Par exemple, il y a deux robots hein, dans un de ces principaux dessins animés qui font à peu près la même taille quand ils sont déployés. Genre, ils sont très très grands, vous voyez, plusieurs mètres. Ouais. Et quand ils se replient, il y en a un qui est en forme de camion, grandeur nature, et l'autre qui est en forme de pistolet qui tient dans la main. Il y a un problème, vous voyez, il y a un vrai problème. Comment un robot de 10 mètres de haut peut se transformer en pistolet de 30 cm? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, les Transformers, ça reste l'un des plus gros succès, succès du jouet hein, au XXe siècle. Ils ont connu une seconde vie avec les super productions hollywoodiennes que j'ai pas vues, que je les ai pas vues celles-là, mais elles ont l'air très sympas avec ces explosions partout hein, de Michael Bay. Et maintenant que vous savez tout ça, je vous invite à vous émerveiller une nouvelle fois sur la façon dont ce menaçant Bumblebee redevient une petite Ford Mustang jaune. Oui, pardon, ça c'est un petit peu raté.
C'est compliqué visiblement.
Voilà, il y a un petit savoir-faire.
Voilà,
j'y suis arrivé. Voilà. La Ford Mustang est de nouveau ici.
Bravo, David Castello-Lopez.
Merci, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Et c'est l'heure de retrouver Olivier Pouls pour l'histoire d'une recette. Olivier, aujourd'hui, direction la Vendée pour découvrir les mojettes.
Bah oui, les mojettes qu'on connaît aujourd'hui comme une grande spécialité vendéenne. On l'appelle aussi d'ailleurs le lingot, mais qui n'est évidemment pas originaire de Vendée. Bah, c'est comme souvent pour un certain nombre de produits, c'est l'Amérique du Sud, et notamment le Mexique, qui est son bassin de naissance. Et ce sont les conquistadors espagnols qui, au XVIe siècle, l'ont rapporté comme tellement d'autres choses, comme le piment, comme les tomates. Ils ont eu l'idée de donner quelques graines de ces haricots au pape Clément VII, qui a trouvé ça très intéressant parce qu'il voyait en cette potentielle culture un moyen de lutter contre les famines un peu partout en Europe. Il a donc demandé à ses jardiniers de regarder de près comment on pouvait lancer la culture de ces fameux petits haricots qui ont commencé en Italie. Parallèlement, on a lancé ces cultures aussi en Espagne. On a réalisé un certain nombre de croisements et faut dire que ça a plutôt bien marché. Et ces haricots sont ensuite remontés vers le nord. Ils se sont arrêtés en Provence. Ils se sont arrêtés dans le sud-ouest. Oui. Ils se sont arrêtés un bon bout de temps, d'ailleurs, ils y sont toujours, puisque ce sont ces haricots qui servent également à élaborer. Ce sont des haricots blancs, hein, pour
on
le coup.
On les appelle des haricots blancs.
Des haricots blancs du sud-ouest.
Ils portent le nom de Mogette seulement en Vendée.
Ils portent le nom de Mogette en Vendée et ils portent plusieurs noms d'ailleurs. Le nom de Mogette vient de Monrito en provençal, qui veut dire petit moine. Parce qu'en fait, quand on les
Monrito,
regarde...
Monrito, ça veut dire petit moine?
Monrito.
Monjito,
je ne sais pas comment ça
se prononce. Mais parce qu'ils ont une petite...
Parce qu'ils sont blancs et puis ils ressemblent à un petit moine qui prie, si on les regarde bien.
Au Portugal, on parle de feijão frade et le feijão frade, frade, ça veut dire frère religieux, et c'est exactement la même explication. C'est merveilleux, voilà, j'ai une petite...
Ça, c'est l'Europe qu'on aime. Et puis alors, donc, ils sont arrivés en Vendée, avec un climat qui leur convenait particulièrement bien. On les a installés là-bas, et c'est devenu un incontournable de la gastronomie locale, puisque depuis 2010, ils bénéficient de ce qu'on appelle une indication géographique protégés. On les trouve sous différentes formes, suivant les périodes de récolte. Alors, la période de récolte des mogettes fraîches, c'est maintenant, c'est en train de se terminer, en septembre, encore un petit peu octobre. Ensuite, on va trouver les mogettes demi-sèches, qui donc sont récoltées plus tard, qui ont commencé à sécher, elles n'ont plus que 50% de taux d'humidité. Et puis sinon, la mogette sèche, qui elle est ramassée vraiment en fin de saison, et qui, elle, doit cuire plus longtemps ou doit être réhydratée dans l'eau. Et c'est celle-là que vous pouvez trouver tout au long de l'année. Mais en ce moment, avec un peu de chance, vous allez trouver de la fraîche. Et il y a de nombreuses recettes, évidemment, pour travailler ces mogettes. Si j'ai un petit peu de temps, je vous en donne deux, rapides. Alors la première, c'est une petite crème de mogettes. Vous la cuisez dans un bouillon un petit peu relevé. On la mixe avec un petit peu de beurre et un peu de cumin, parce que le cumin et la mogette, ça marche très bien ensemble. Oh. Et alors là, vous avez quelque chose que vous pouvez servir tiède ou froid à l'apéro, par exemple, ce qu'on appelle un tartinable. Et alors moi, ce que j'adore, c'est faire des boulettes de mogette, un petit peu dans l'esprit des falafels. Donc vous allez les cuire là aussi longtemps, de manière à ce qu'elles soient un peu ramollies. On les essore, on les mixe ensuite avec des herbes, avec des épices, avec du sel, du poivre. On en fait des petites boulettes qu'on va façonner à la main et qu'on va cuire dans l'huile de friteuse pendant 7-8 minutes. Et là, vous avez quelque chose qui est croustillant à l'extérieur.
Ça, c'est pour l'apéro ?
Et ça peut faire l'apéro. Avec une salade, ça peut faire une entrée ou même un plat. Mm-hmm. Et l'idéal, c'est de le servir, vous savez, avec une petite crème que vous avez agrémentée, une crème ou un fromage blanc, si vous voulez faire léger, que vous avez agrémenté de plein de petites herbes. Là aussi, ça marche très très bien. C'est vraiment, et puis une dernière idée, un ragoût. Hein, vous laissez cuire ça longtemps avec du jambon, avec du coulis de tomate, avec des épices. Franchement, il faut redécouvrir la mogette. C'est en plus un produit qui est excellent pour votre santé, riche en protéines, en magnésium et en vitamines. Que de l'avantage à manger des mogettes.
Bravo.
Que de l'avantage, ou presque, comme nous le disions tout à l'heure.
Voilà, il y a peut-être
Olivier
ce Pouls, petit inconvénient.
L'ambassadeur de la mogette. Merci beaucoup, Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
C'est l'heure de l'affrontement qui nous oppose chaque jour. En fin d'émission, on appelle ça la lutte finale.
On a tendance à l'oublier avec le succès de ce quiz, mais la lutte finale, c'est d'abord un chant révolutionnaire dont les paroles ont été écrites par Eugène Potier en 1871, lors de la répression de la Commune de Paris. Eugène, si tu nous écoutes, ce quiz est pour toi. Olivier, première question. Une question sur l'Empire State Building, qui a été inauguré par le président Herbert Hoover le 1er mai 1931. Le bâtiment a été construit avec 5 mois et demi d'avance. C'est vrai ou c'est faux ?
Ça semble énorme, mais en même temps, pourquoi sinon cette question ? C'est peut-être 3 mois d'avance ou c'est peut-être 2 mois de retard. Là aussi, on revient à des questions complètement absurdes. Il y a absolument une chance sur deux. Je vais dire oui, allez, c'est vrai.
Et oui, il a été construit en 410 jours. Il faut dire qu'il y avait 3400 ouvriers qui étaient mobilisés sur le chantier. Alors, David Castillo-Lopez, pour un souci d'équité, une question Empire State Building également pour vous. Mm-hmm. La grosse antenne située tout en haut du bâtiment était à l'origine prévue pour servir de mât d'amarrage pour les ballons dirigeables. Vrai ou faux ?
Je sais qu'il y en a qui ont été faites pour ça, mais est-ce que c'est celle-ci qui était faite pour ça ? J'ai envie de dire oui.
Je pense qu'après la première guerre, il n'y a plus trop de dirigeables.
Le Hindenburg, là ?
Non, souvenez-vous, Indiana Jones, il est dans le dirigeable.
On est bon, alors, j'ai envie de dire non, allez, non.
Bah, je vous invite à dire vrai.
Ah oui, j'ai dit vrai, c'est pas
que j'ai dit non. Il a dit non. Il a dit non, il s'est éliminé alors qu'il avait bon. Mais oui,
s'est éliminé.
La tige, elle servait à ça. Enfin, la tige, pas comment vous l'appelez.
On pensait à l'époque que les ballons allaient être le nouveau moyen de transport pour la haute bourgeoisie. Mais à cause des vents ascendants,
attends, comment ils descendaient ?
On a abandonné l'idée.
Ouais,
bon,
non,
pas de raison, Mathieu, vous aussi, vous avez une question sur l'Empire State Building.
Ah.
On l'a vu, le chantier avançait à vive allure tellement rapidement que les 30 premiers étages ont été finis avant le rez-de-chaussée. Vrai ou faux ?
Alors donc, les 30 premiers étages ont été terminés avant le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est particulièrement monumental, donc terminé, c'est-à-dire posé jusqu'à la dernière ampoule, hein, Stéphane, jusqu'à la dernière...
Oui.
Alors, oui.
Mais oui, il faut dire que le hall d'entrée est particulièrement réussi.
D'abord, oui.
Il est classé monument historique grâce au marbre rose, aux feuilles d'or, de platine, etc. Alors, il faut départager maintenant, ouais, encore une fois, entre Mathieu et Olivier.
Moi, ça fait 8 semaines que je suis dans le secondaire.
La question... période un petit creux pour mon avis.
La question qui départage, donc c'est la réponse qui se rapproche le plus de la bonne réponse qui remporte la lutte finale. Départageons-nous sur l'Empire State Building. Tous les
ans, aussi, encore,
oui, est organisée la Empire State Building Run-Up, une course où le but est d'arriver, okay, tout en haut en prenant l'escalier.
Donc le nombre de marches.
Au 86e étage. Combien ça fait de marches ?
Au 93e étage ?
86e étage.
86e étage.
Alors, vous
moi
dites...
je dis 3300.
3300 pour Mathieu Noël, 2800.
Moi je dis 1500.
Vous ne jouez pas,
vous ne jouez pas, mais vous auriez gagné, David. C'est 1575 marches.
Donc c'est moi qui ai gagné.
C'est Olivier qui gagne.
Ouais. Ouais. Je fais un petit calcul, hein, 20 cm par marche, 1 mètre, voilà. Voilà. Bon.
Vous êtes en train de nous humilier, là, ouais, David, en montrant que.
Ouais, bravo, un simple Olivier,
calcul. Moi, je pensais que les étages étaient un peu plus hauts.
Oui, moi, aussi,
moi,
aussi.
Moi, je pensais qu'ils étaient beaucoup, beaucoup plus hauts. Moi, je pensais qu'il y avait au moins 4 mètres par étage parce que.
Ouais, parce que vous avez pris votre appartement.
Moi, quand j'ai visité, je pensais acheter là-bas, il y avait 4 mètres d'hauteur sous plafond. Donc, si vous voulez, je ne savais pas que les étages normaux, il y avait moins de. Voilà, je ne pouvais pas savoir. Victoire d'Olivier Pouls. Bravo. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Les amis, il était consacré aux personnages les plus secrets de l'histoire, hormis David Castello-Lopez, à l'objet d'une autre émission. Lequel de nos personnages sacrément secrets vous a le plus surpris, Stéphane ?
Ah, j'ai beaucoup aimé Edouard Manet. Bah, je les aime tous, nos personnages, après tout.
Vous aviez une théorie sur Mylène Farmer ?
Oui, c'est celle que vous m'aviez confiée.
Oh,
et c'est qu'en fait, elle ne dit rien parce que...
Elle n'a rien à dire, peut-être.
Ah oui, ouais, c'est ce que vous me disiez.
C'est
oui,
ce que vous me disiez, c'est ce que vous me disiez. Demain, quand j'ai entendu notre thème, j'ai cru que l'émission m'était consacrée, bon, à un mot près, moi, beau et méchant.
Oui, Mathieu, c'est presque vous. Sauf que eux sont des criminels. Vous, je ne crois pas. Enfin, pas vraiment.
Pas encore.
On réunit 3 criminels, donc, particulièrement bien faits de leur personne. Le dandy du crime, Pierre-François Lassner. Le tueur en série, Ted Bundy, incarné par Zac Efron dans le biopic de Netflix.
Et Jeremy Mix, un ancien membre de gang devenu mannequin à sa sortie de prison. Calmez-vous Stéphane et soyez patient, je vous le présente demain. À demain les amis.
À demain Mathieu, à demain les amis, à demain chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.